plongée au fond.
Bonjour Emmanuel Morucci.
Bonjour.
Alors, rappelez-nous, pourquoi vote-t-on le 26 mai ?
Eh bien, on vote le 26 mai pour élire les parlementaires européens, ce que l'on appelle plus couramment les députés européens, c'est-à-dire ceux qui vont participer à l'élaboration de la réglementation de la loi européenne. Une loi qui est destinée, bien sûr, aux 550 millions de citoyens de l'Union européenne, mais aussi un certain nombre de lois, de directives, de règlements qui vont permettre la normalisation des relations entre les pays européens, mais aussi avec le reste du monde. Donc c'est une élection qui est particulièrement importante, le Parlement européen étant le creuset de la démocratie sur le continent européen.
Donc on imagine des députés qui se retrouvent à Bruxelles, dans le grand Parlement européen, c'est ça ?
Tout à fait, un petit peu plus de 700 parlementaires.
Et au quotidien, qu'est-ce qu'ils vont faire ces députés ?
Eh bien, ces députés au quotidien travaillent justement à l'élaboration de ces réglementations. Ils reçoivent les personnes qui vont leur donner un certain nombre d'indications, sont en relation permanente avec les États, les gouvernements, travaillent bien sûr à l'intérieur de leur propre parti au sein du Parlement européen, mais ne représentent plus directement les État duquel ils sont originaires.
Alors ça donne quoi la couleur politique là, à cette fin de mandature là,
On avait une majorité ça durait depuis un moment. On était sur quelque chose de construit entre les sociaux-démocrates, on va dire les socialistes européens, et la droite modérée. Ces deux grandes formations avaient l'habitude de décider, de se mettre d'accord, de trouver des alternatives communes, et donc la construction européenne a avancé de cette manière.
Ça c'est maintenant.
C'est maintenant. Les choses risquent de changer sensiblement, puisque d'une part, ça ne nous a pas échappé, il y a une montée des populismes un peu partout dans l'Union européenne. Alors pas seulement dans l'Union européenne, c'est aussi tout le monde occidental qui est touché. Regardez les États-Unis. Montée des populismes, retrait, si on peut dire ça comme ça. Retrait des grands partis traditionnels. On estime aujourd'hui que le Parti socialiste devrait perdre quelque chose comme 30 sièges, la droite modérée, type Les Républicains en France, une cinquantaine, au profit donc de partis souverainistes ou nationalistes, et puis une stabilité des écologistes, par exemple. Et puis, ce qu'il faut noter, et c'est notable, c'est le départ des Britanniques, puisque nous ne devrions pas avoir de parlementaires.
À l'heure actuelle, au moment où on se parle, normalement, non.
Mais les choses vont tellement vite et changent tellement souvent au Royaume-Uni que d'ici ce soir, demain, ou au moment où cette émission...
Ou le 12 avril,
il peut y avoir encore du changement. Assez peu probable, tout de même.
Alors, nouveauté sur cette élection, c'est le fait qu'on ne votera plus pour des listes par grande région, mais bien pour une liste nationale. Alors, plusieurs questions pourraient découler de cette nouveauté. C'est déjà les enjeux nationaux. Ils disparaissent là, pour le coup, complètement.
Alors, ma première remarque, si vous me permettez une remarque un peu personnelle, je suis désespéré. Désespéré de voir que l'on est passé de liste régionale à une liste nationale. On l'avait connu. La première élection européenne en 1979, c'était déjà des élections par liste nationale. Et on s'était rapidement rendu compte que, au bout de deux mandats, ça ne fonctionnait pas parce que les parlementaires européens étaient véritablement trop éloignés des citoyens. Et ça formait ce décalage. Je disais à l'instant que le Parlement européen est le creuset de la démocratie. Il est donc tout à fait logique que si les parlementaires décident des orientations, des lois et des directives, ils sont aussi les délégués, les représentants de leurs citoyens. Et les listes régionales, alors qui n'étaient pas formidables non plus, parce que c'était des grandes régions, vous imaginez...
Parce que même là, à l'heure actuelle, c'est compliqué de dire qui est son député européen ou ses députés européens.
La circonscription actuelle, c'est la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Vous imaginez bien que la députée du Poitou-Charentes ne vient pas dans le Finistère Nord tous les matins. Donc on ne sait pas bien. Non, je pense qu'il aurait fallu imaginer et je répondrai à votre question par la suite, imaginez des circonscriptions plus modestes, avec une autre forme de scrutin, mais avec une capacité pour les citoyens européens, mais aussi pour les élus locaux, de bien identifier le parlementaire européen, de manière à avoir ce lien. Parce qu'il y a un lien étroit entre Union européenne et régions et collectivités territoriales. Et ça, il ne faut pas l'oublier. L'Europe n'est pas déconnectée du reste. Alors, pour revenir à votre question, nous sommes sur des listes nationales, ben, moi je pense que ça a un intérêt uniquement pour les partis politiques.
Très bien, ouais. Voilà. Parce que c'est quand même, on joue à un jeu dangereux quand même, c'est-à-dire on refuse la proportionnelle au niveau national, et là, au niveau européen, on accepte la proportionnelle.
Oui, tout à fait.
C'est donné du grain à moudre aux
extrêmes. Tout à fait. Et puis si on gratte encore un petit peu, on peut s'apercevoir, par exemple, et ça n'est qu'un exemple, que les candidats de La République En Marche vont siéger dans le groupe libéral centriste au Parlement européen. Mais on s'aperçoit aussi que les députés de l'UDI, s'il y en a, siégeront dans le même groupe. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité d'avoir deux, trois listes qui, finalement, vont avoir des élus qui vont se retrouver au sein d'un même groupe. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes logiques que les logiques nationales que nous connaissons à l'Assemblée nationale, par exemple.
Alors plus globalement, quels sont les enjeux autour de cette élection européenne? Vous l'avez un petit peu évoqué. Est-ce que ce serait pas un petit peu réducteur de vouloir tout ramener à une opposition nationaliste contre pro-européen?
Oui, je crois qu'il faut sortir de ce faux duel là. C'est pas bon du tout. D'abord, le problème, il n'est pas entre les progressistes. Ceux qui se disent progressistes. Alors faudrait-il définir le terme de progressiste, hein? Moi j'attends toujours, j'ai posé la question à plusieurs reprises, j'attends toujours qu'on m'apporte une réponse. Et puis ce que l'on qualifie de populiste, souverainiste, nationaliste de l'autre côté. Non, le problème n'est pas là. Le problème c'est de dire quel type d'Europe nous voulons pour demain. Quelle poursuite de la construction européenne? Une construction européenne qui a 70 ans d'âge. Bon, c'est un peu âgé pour les gens jeunes, mais ça l'est beaucoup moins à l'échelle de l'humanité. Et pour construire une entité finalisée comme l'Union européenne, il faut au moins autant de temps devant. Donc, c'est pas fini. Le projet des futurs candidats est de nous dire, voilà vers où on vous amène, vous, les citoyens européens, voilà ce que nous voulons faire, à la fois pour vous, citoyens, mais aussi pour discuter avec le reste du monde.
Est-ce que vous avez souvenir d'une élection européenne où au final, beaucoup d'acteurs de ces prochaines élections vont mettre en avant des velléités anti-européennes? Est-ce que c'est une grande première?
Oh, non, je crois qu'auparavant, il y a toujours eu des nationalistes, des souverainistes, on peut les appeler comme on veut. Je n'ai pas le sentiment qu'auparavant, il y ait eu cette force et cette puissance. Aujourd'hui, on est quand même dans la situation où l'on s'aperçoit, alors que les ultra-droites ne progressent pas du tout au Parlement européen, en tout cas c'est pas dans les études et les sondages, mais les eurosceptiques, les souverainistes, les nationalistes, ceux qui sont porteurs de ce que l'on appelle une Europe des nations, cela progresse. Voilà. Alors, on n'est pas non plus, il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas tout noircir, on n'est pas non plus dans une extrême droite qui serait prête à envahir l'Union européenne et que toute l'Europe passerait du bleu au brun. Non, je pense qu'on n'en est pas là, ça ne se produira pas. Mais c'est quand même une sacrée progression, il faut se poser très sérieusement la question du pourquoi cette situation dans la plupart de nos pays européens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre Union européenne, qui a des valeurs, et l'Union européenne est construite sur un certain nombre de valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces valeurs soient mises de côté, soient oubliées ou même rejetées?
Où est-ce qu'on a bugué justement dans cette construction européenne? Est-ce que ça provient pas aussi peut-être de l'identité? Quelque part, on n'a pas réussi. C'est difficile de se définir en tant que citoyen européen, pourtant ça pourrait être aussi une éventualité.
Oui, tout à fait, mais nous sommes des citoyens européens, nous sommes des citoyens de l'Union à partir
du moment... Mais ça vient pas tout de suite.
si, ça vient automatiquement à partir du moment où nous avons la nationalité.
Enfin, c'est pas la première réponse auquel on pourrait donner.
C'est un droit. c'est un droit. Ce qui n'apparaît pas, et vous avez tout à fait raison d'aller dans ce sens-là, c'est le sentiment d'appartenance à l'Union européenne. On oublie que l'Union européenne est notre première dimension territoriale d'appartenance. Je considère qu'il y en a au moins trois. Alors, l'Union européenne peut être la première, la plus vaste, la nation, ensuite, et ensuite le territoire local, la région, voire la commune. Il y a besoin d'un sentiment d'appartenance. Mais en même temps, on est fier d'appartenir à quelque chose que l'on connaît bien. Et si vous remontez les années passées, vous allez vous apercevoir que finalement, la pédagogie, l'enseignement de l'Europe, la socialisation à la chose européenne, à la culture commune européenne, eh bien, ça n'a pas existé dans nos écoles. Ça n'a pas existé dans nos écoles, ça n'existe pas vis-à-vis des citoyens. Et petit à petit, eh bien, les citoyens ont considéré que c'était une affaire de technocrates, de personnalités qui élaboraient uniquement des normes. L'Union européenne pouvait être éventuellement une source de financement supplémentaire, mais ça n'avait pas cette dimension anthropologique, cette dimension où l'homme, la personne a sa place. Et c'est ça qu'il faut retravailler, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui repenser la construction européenne en mettant au cœur du projet les individus, les personnes que nous sommes.
Ce sentiment de mauvaise perception de l'Union européenne auprès du grand public n'est-il pas tout simplement dû à cette fameuse histoire de règle des 3% qui briderait les États dans leur budget?
Oui, l'histoire des 3%, c'est une règle commune. D'abord, n'oublions pas que ce sont les États eux-mêmes qui ont élaboré cette règle. Hein, l'Europe n'est pas un truc posé au-dessus des États. N'oublions pas que ces décisions sont bien prises par nos chefs d'État et de gouvernement, sont bien validées par nos parlementaires européens et par nos ministres de l'Union européenne. Donc c'est nous-mêmes qui avons mis en place ces réglementations. Elles nous ont embêtés à un moment donné, on a donc rejeté, mais vous constaterez aussi aujourd'hui que la plupart des pays, sauf l'Italie, eh bien, nous sommes dans les clous des 3%.
Alors, on va aborder la question britannique, qui va aussi certainement polluer cette campagne. De manière générale, la question britannique, c'est un véritable test pour l'Union européenne. Il ne faut pas donner aux autres l'envie de s'en aller comme ça.
Ouais, peut-être. Mais vous constaterez avec moi que depuis le début du Brexit, les 27 autres pays membres sont restés extrêmement solidaires. Et le test est là, c'est cette solidarité que l'on ne connaissait pas, y compris chez les plus eurosceptiques. Eh bien, cette solidarité est restée forte et elle continue à l'être. C'est-à-dire que le départ du Royaume-Uni pose question, mais pose aussi le problème d'un renouveau de l'Union européenne, et notamment sur des dimensions sociales, par exemple, chose que le Royaume-Uni avait toujours vue en opposition. Le Royaume-Uni a toujours mis son veto à une Europe politique, une Europe sociale, fiscale, par exemple, vous voyez, des éléments qui peuvent permettre d'aller vers la définition d'un territoire d'appartenance aussi. Il n'y a pas que l'économie, il y a aussi les individus.
Bon, si on dit que cette élection européenne, c'est peut-être un peu exagéré de dire stop ou encore. C'est pas la question qui est posée.
Non, encore, et puis encore et encore. La construction européenne n'est pas fini, et puis c'est la meilleure chose qui ait pu nous arriver depuis la Seconde Guerre mondiale. Moi, je rappelle que ne serait-ce que la question de la paix, il n'y a pas eu de conflit entre nos pays européens signataires les 70 dernières années. Pas oublier qu'auparavant, il y en avait une en moyenne tous les 30 ans entre les pays européens.
Ouais, c'était un cycle.
mais tout à fait. Aujourd'hui, nous avons cette paix et on est tellement dans la paix que l'on oublie que nous sommes en paix. Voilà, ça peut-être faut-il le rappeler, même si pour les jeunes générations, c'est un peu complexe à retenir. Mais en même temps, regardons ces fameuses normes, vous n'avez pas prononcé le mot tout à l'heure, mais vous aviez envie de parler des normes qui sont un peu contraignantes. Oui, bien sûr, il y a des normes contraignantes, mais en même temps, nous sommes la région du monde où on vit le mieux, le plus longtemps et en bonne santé. Non, ça veut dire que les normes, elles sont sans doute contraignantes par certains côtés, mais ce sont elles aussi qui nous protègent. Donc voilà, il faut faire la part des choses, il faut peut-être remettre aussi, et c'est ça que j'appelle la pédagogie sur l'Europe, la remettre sur le métier, recommencer à expliquer ce que nous sommes en train de faire. Et je crois, ma foi, que nous ne sommes pas si mal par rapport à beaucoup d'autres régions du monde, l'Union européenne n'étant aussi qu'une région du monde.
On dit parfois que cette élection est l'occasion pour les électeurs d'aller voter avec les pieds, ou n'importe comment. Est-ce que c'est pas une chose à craindre pour ces prochaines élections ?
Alors moi, ce que je crains le plus, c'est l'abstention. On va tomber sur un week-end, il va faire super beau. Les gens vont se poser la question, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup ? C'est quoi un député européen ? En plus, on les connaît pas, nous, de ces députés européens, puisque... On présente des listes, hein. Aujourd'hui il y en a 9-10, hein. Listes, 79 candidats à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer ? Et s'il n'y a pas de concret, je crois que le discours tel qu'on peut l'entendre encore aujourd'hui, maintenant que les programmes ne sont pas encore annoncés, eh bien c'est le genre de discours un peu de l'ancien monde politique, et ça ne va pas intéresser les électeurs qui vont peut-être penser qu'il est plus sympa d'aller faire un tour à la pêche. Ça, ce serait dommage. Parce que, comme je l'ai dit au début de cette interview, de notre entretien, les grandes décisions qui nous touchent à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi tous les règlements, tous les apports dans nos relations avec le reste du monde, pour notre économie, pour notre sécurité, pour notre défense, pour notre diplomatie, ça se prend au Parlement européen. Et ceux qui vont avoir cette charge vont être des personnes... très lourdement responsable de notre devenir. Et pour ça, il faut aller voter.
Alors, pour en revenir à notre territoire, on l'a rapidement évoqué, mais quels impacts ont les décisions européennes sur les territoires ? Il est toujours bon de le rappeler.
Il y a beaucoup d'impacts, hein. L'Europe est dans notre vie de tous les jours, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons. L'Europe est sur nos routes, elle est sur nos aéroports, elle est dans nos ports. L'Europe participe à des financements par un certain nombre de programmes. La Bretagne et notre région finistérienne adhèrent très facilement au FEDER, au FEOGA, aux différents fonds européens qui existent sur la mer, la pêche, ou encore les questions sociales. Les grands équipements sont cofinancés par l'Union européenne. Nous ne sommes pas très loin de Brest ici, je prendrai l'exemple du téléphérique. Un tiers du téléphérique a été financé par des fonds européens.
Oh, ça va alors ?
Bah ça va, oui, ça va, à condition aussi de le reconnaître et de se dire que...
Non, mais c'est pour dire que les Brestois n'ont pas tout payé.
Les Brestois n'ont pas tout payé, non.
Pour être un peu taquin.
Non, effectivement, les Brestois n'ont pas tout payé. Mais en même temps, on y participe tous, hein, puisque voilà, tout ce qui est infrastructure, finalement, est une participation de l'Union européenne. C'est-à-dire que notre développement économique, social, passe aussi par la question européenne. Puis j'oublierai pas, bien sûr, nos agriculteurs avec une politique agricole commune qui est très très importante. Qui va être modifié, qui va être réformé. Ça va être le boulot, j'allais dire, ça va être le taf des nouveaux parlementaires européens. Ils vont devoir s'y coller, sachant qu'aujourd'hui, l'ensemble du financement européen va être réparti entre d'autres compétences, entre d'autres domaines. N'oublions pas non plus que, malheureusement, le budget de l'Union européenne, c'est seulement 1% du PIB de chacun des États. Si on veut comparer avec les États-Unis d'Amérique, le rapport est de 1 à 27.
La région Bretagne, c'est quelque chose qui existe à Bruxelles ?
Oui,
qui est pris en compte avec ses spécificités.
Bien sûr, la région Bretagne a même une délégation à Bruxelles, avec une maison de la Bretagne, des représentants qui sont des lobbyistes, finalement. Hein, on les critique souvent, mais nous-mêmes, nous avons, en tant que Bretons, nos
mais
propres lobbyistes.
Ce n'est pas ça le lobbying ?
C'est ça le lobbying, c'est être présent auprès des parlementaires européens, auprès des fonctionnaires, auprès des commissaires, et vendre notre marchandise. Notre pays, notre Bretagne.
Parce qu'on imagine toujours le lobbying comme quelque chose de peut-être malsain. Ça peut être
oui,
aussi.
Non, mais tout à fait. Bien sûr, le lobby est considéré comme étant quelque chose de négatif et on utilise le mot de façon péjorative. Mais il faut se dire une chose, c'est que quand il y a un lobby pour, il y a toujours un lobby contre. Et le parlementaire européen doit faire son discernement. Le fonctionnaire européen doit le faire. Le commissaire européen doit le faire. Entre ce qu'on lui dit qui est pour être favorable et puis ce que l'on dit être défavorable. Voilà, c'est le travail du parlementaire, ce qui nécessite, bien évidemment, pour lui, une grande connaissance des choses et un grand d'esprit d'ouverture.
Et des qualités morales.
Et des qualités, ah ben, bien évidemment, ça va de soi.
Est-ce qu'on a le sentiment d'être européen dans le Finistère ?
Oui, alors globalement oui, un sondage qui avait été réalisé par la région Bretagne donne à plus de 60% de mémoire les Finistériens, les Bretons se sentent européens. En tant que sociologue, je mettrais moi une petite modération, dirais que plus on a fait des études, plus on est en activité, plus on est dans le monde social, plus etc., plus on se sent européen, plus on est éloigné du travail, moins on a de revenus, etc. Plus on se sent éloigné, je crois que la Bretagne ici n'échappe pas aux mêmes règles que les autres régions de France ou d'Europe.
Vers quoi va l'Europe aujourd'hui ? Est-ce qu'il existe un projet politique autre que d'être un simple redresseur de tort ?
Oh, redresseur de tort, je ne pense pas que ce soit la vocation de l'Union européenne. Ou alors, ça voudrait dire que les pays eux-mêmes sont en train de se tailler des bâtons pour se taper dessus. Hein. Non, c'est pas ça. Le projet européen, c'est un projet qui doit être porteur à la fois à l'intérieur, avec des valeurs pour les citoyens, et un projet vers l'extérieur de l'Union européenne. La vraie question, à mon sens, c'est celle que les partis politiques devraient développer. C'est quel mode de gouvernance doit-on mettre dans l'Union européenne dans les années à venir ? C'est-à-dire, moi je crois que les traités ne sont pas figés dans le marbre. Hein, on en a eu plusieurs. D'ailleurs, nous sommes en train de fêter les 62 ans du traité de Rome actuellement. Ça veut dire que depuis le traité de Rome, il y en a eu un certain nombre. Moi, je crois que nous sommes arrivés à une période où il faut penser l'écriture d'un traité adapté à notre temps. Les deux traités de Lisbonne ont été mis en place à la suite du rejet du traité constitutionnel. Donc, il fallait faire marcher les institutions. On était un certain nombre de pays. Donc, une partie a été un peu récupérer notamment la partie institutionnelle. Aujourd'hui, on a besoin de revenir vers un texte qui pose la question des citoyens de l'Union européenne. Donc, il faut écrire quelque chose avec une dimension...
nationalité européenne.
Non, pas une nationalité, parce qu'il n'y a pas de vocation de l'Union européenne, si j'en crois les fondateurs, et notamment Robert Schuman, il n'y a pas de volonté d'en faire un État, mais une citoyenneté, une véritable citoyenneté, mais avec une dimension sociale, parce qu'aujourd'hui, les ressortissants européens que nous sommes, nous évoluons dans un cadre mondialisé. Et notre réflexion n'est pas de nous renfermer sur nous-mêmes en se disant on est bien chez nous, il faut surtout se protéger. Non, la mondialisation va continuer. Ça fait des siècles que la mondialisation est en route, elle ne va pas s'arrêter comme ça. Il faut se mettre dans ce monde. Et c'est à l'Union européenne, et sans doute seulement à l'Union européenne, que revient la capacité de nous représenter les uns et les autres. Je pense que la notion d'État, même d'État-nation, aujourd'hui est une notion sans doute un peu périmée. Donc il faut évoluer et il faut passer par la question européenne. Mais, et c'est une nuance qui est importante, à mon sens, l'Union européenne n'a vocation à s'occuper que des compétences qui lui sont déléguées. Tout le reste revient à la compétence des États membres.
Merci beaucoup Emmanuel Morucci, président honoraire de la Maison de l'Europe à Brest, conférencier et sociologue. Quand est-ce qu'on pourra vous retrouver sur une prochaine conférence ?
Eh bien écoutez, presque tous les jours, pendant le mois d'avril et le mois de mai, hein, puisque nous arrivons au mois de l'Europe, et c'est vrai qu'il y a pas mal de sollicitations.
Merci beaucoup.
Merci aussi.
L'émission. Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.